retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
On n'est pas addict à une bouteille, on est addict au contenu, à l'alcool. C'est pareil pour l'écran. Vous voyez que parfois, on passe d'une application à l'autre, d'un type de contenu à l'autre. Et donc, du coup, c'est quoi le point commun de tout ça? C'est l'écran.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Une fois n'est pas coutume, nous abordons aujourd'hui un phénomène qui nous concerne toutes et tous. Ces objets devenus indispensables, omniprésents mais surtout obsédants. Les écrans sont devenus une drogue à part entière, associant excitation, stimulation, libération de dopamine, scrolling, binging, notifications incessantes, réseaux sociaux à la chaîne. Ces appareils sont donc programmés pour nous rendre addicts. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces interfaces? Pourquoi nos cerveaux et surtout ceux de nos enfants sont-ils si vulnérables? Et surtout, comment s'en sortir? Pour entrer en profondeur dans ce sujet captivant, nous avons la chance de recevoir un expert reconnu dans le domaine des addictions et de la santé mentale. Son parcours impressionnant serait difficile à résumer en quelques mots, mais voici quelques faits marquants. Professeur à l'hôpital Paul Brousse, il est également président de l'association Addicted, auteur de plus de 150 articles scientifiques ainsi que d'ouvrages académiques, pédagogiques et grand public. Fondateur du congrès international d'addictologie, l'Albatros, il a récemment co-présidé la commission sur les écrans, dont le rapport remis au président de la République lui-même a fait couler beaucoup d'encre. Ce qui fait la richesse d'une nation, c'est sa jeunesse, et la nôtre n'est pas à vendre. Peut-on lire en introduction de ces 141 pages titrées en toute transparence « Enfants et écrans à la recherche du temps perdu ». Le professeur Benyamina et son équipe ont mis en lumière un constat alarmant, la surexposition aux écrans chez les jeunes qui ne cesse de croître et l'urgence d'agir pour protéger nos enfants. On découvre ainsi que ce ne sont pas seulement les outils numériques en eux-mêmes qui posent problème, mais bien ce qui se cache derrière, les algorithmes, le contenu et surtout la manière dont ils captent notre attention. Avec 29 recommandations marquantes, ce rapport a été un véritable coup de tonnerre. Les chiffres sont inquiétants, une dépendance à la navigation incessante, des jeunes qui passent parfois jusqu'à 18 heures par jour sur leur téléphone et des familles qui, au lieu de dialoguer, se retrouvent scotchées à leur écran. Alors merci, professeur Amine Benyamina, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de te recevoir.
Merci Karen, on y arrive.
On y arrive, voilà. Je te tutoie parce que je te connais, parce que grâce à toi, j'ai pu participer au congrès de l'Albatros il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, et rencontrer le grand Nicolas Price, qui est le président de la MILDECA et qui nous soutient. Alors Amine, est-ce que tu sais que je commence toujours par demander à mes invités quelle est leur définition de l'addiction?
Moi, j'ai une seule définition qui était la première, c'est une perte de liberté. C'est la privation d'une liberté fondamentale que celle de pouvoir s'abstenir, soit de consommer des produits, soit d'avoir un comportement qui, à terme, est préjudiciable à notre santé physique, mentale et environnementale et sociale. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a toutes les grandes définitions académiques, mais je pense qu'aujourd'hui, pour ce format qui est le tien et qui est remarquable, tout est dit. C'est une question de liberté, l'addiction.
C'est parfait, c'est une prison, donc on est privé de liberté. Comment tu définis l'addiction au numérique?
Ça c'est compliqué. Lorsqu'on a rencontré le président de la République, à sa demande, on l'a vu avant les fêtes, c'était l'année passée, puis il l'a annoncé juste après les fêtes, il nous a dit, j'ai bien conscience qu'en vous demandant de me faire un rapport sur les écrans, je ne vous facilite pas la tâche, parce que être addict à un écran, ça veut dire tout dire et rien dire à la fois. Et ensuite, évidemment, derrière l'écran, c'est le numérique. C'est un peu, on a tendance à le dire, parce que je présente le rapport un peu partout, aussi bien devant des experts, devant des professionnels de la profession, comme on dit, que devant le grand public. Je prends cet exemple, je leur dis, ouais, on n'est pas addict à une bouteille, on est addict au contenu, à l'alcool. C'est pareil pour l'écran. J'étais très fier de cette trouvaille, jusqu'au jour... Évidemment, ce qu'il y a derrière l'écran, c'est les réseaux sociaux, la consommation effrénée de contenu. Alors, ça peut être toutes sortes de contenus, mais aussi des contenus pornographiques, on le sait bien, des contenus de violence, des contenus quasi interdits, et des contenus qui ne sont pas adaptés à l'âge de celui qui les consulte. C'est tout ça. Et donc, tout est porté par ce que vient de dire Kiren, le numérique, la révolution numérique. En même temps, j'expliquais que c'est vrai, c'est par facilité que je parle d'écran. Et puis un jour, Je discutais, comme je le fais avec toi maintenant, avec des personnes qui ont des enfants, ou bien eux-mêmes qui consomment beaucoup les écrans, qui me disent « Mais vous savez, professeur, c'est vrai, hein, ce que vous dites est parfaitement vrai, tout le monde a bien compris qu'on est addict à Instagram, Snapchat, au scrolling, au réengagement passif, à ces algorithmes qui nous définissent, qui nous renvoient ce qu'on attend. Mais en même temps, vous voyez que parfois, on passe d'une application à l'autre, d'un type de contenu à l'autre.
D'une addiction à l'autre, c'était un beau
voilà.
lapsus.
Voilà. Et donc, du coup, c'est quoi le point commun de tout ça? C'est l'écran. Et parfois, on a le sentiment, moi le premier, que quand on a épuisé Instagram, on passe sur Snap, et quand on a épuisé sur Snap, on passe sur... Et c'est quoi? C'est cet objet qui devient un objet en lui-même addictif. Et donc, évidemment, la science ne l'a pas encore finalement mesuré en tant que tel, mais ça n'est pas si idiot de parler d'addiction au numérique aux écrans.
Mais je suis complètement d'accord, parce que de toute façon, on le voit dans le train, dans les métros, c'est-à-dire si c'est pas un ordi, c'est un téléphone, c'est une tablette.
Bien sûr.
Je pense que l'écran en soi aujourd'hui, oui, on va pouvoir, évidemment que c'est le contenu, c'est lui le, comment vous l'appelez, le device
le
en
device.
Anglais.
J'aime vous savez qu'on a à peu près une dizaine d'écrans dans chaque foyer en France.
Ah
une
ouais,
dizaine,
bien
c'est
sûr.
Vite vu. Hein.
Bien sûr.
Vous avez le téléphone, l'ordinateur portable,
les 12 télé.
La télévision, les télévisions.
Et ouais.
Le PC fixe. Donc
et puis
on
surtout
est rapidement...
la connectivité entre tous. Oui. Tout le monde est connecté. Moi, je vois mon fils, il ne sait pas lire l'heure. Il demande, dis Google, quelle heure il est.
Ah ouais, c'est fou.
Ouais, c'est pas un écran par contre.
Ouais.
C'est vrai. Alors, l'évolution du phénomène, c'est ça qui est important quand même. Est-ce qu'on a observé une augmentation des cas d'addiction numérique ces dernières années? Est-ce que dans ton rapport, c'est ça que vous mettez en avant?
Alors, on ne met pas que ça en avant.
Ouais.
C'est un rapport dans lequel on montre la nocivité de la consommation des écrans. Parmi les éléments qui font consensus, on en a trois. C'est d'abord et avant tout, et là toute la littérature scientifique le montre, on a auditionné des personnes expertes, c'est les effets sur la vision avec la lumière bleue. Voilà, ça c'est une réalité. On a même des experts ophtalmo qui nous ont parlé d'une génération de myopes, si on continue dans ce sens.
C'est de fixer quelque chose de trop près, c'est-à-dire qu'en
non,
fait...
Non, c'est le fait de fixer.
La lumière bleue aussi.
Et la lumière bleue, c'est souvent...
Et puis de ne pas être en extérieur aussi, de ne pas fixer des points loin, c'est
aussi,
ça?
Aussi, absolument. Il y a beaucoup d'éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Bah, si, mais on a envie de dire aux gens qu'il faut marcher dans la forêt.
Voilà, marcher dans la forêt, essayer d'avoir vraiment un horizon. Loin, lointain. La nuit, c'est catastrophique parce qu'on est éclairé à la fois par l'objet que l'on consulte. Et puis, la lumière rouge est bonne, la lumière bleue est délétère, et on ne la voit pas, même si elle porte sur ce qui est vraiment très nocif pour la rétine, et pour la vision, pour la réfraction, pour tout ça.
Ça, on le voit.
Ça, on le voit. Deuxième élément, c'est la sédentarité et le syndrome métabolique, qui est très présent. Alors, on a eu des exemples extrêmement intéressants. Professeur François Carré, qui est le père des 30 minutes d'activité par jour, qui est cardiologue et qu'on a auditionné, nous a donné des exemples édifiants, ce qui sont vrais, et qui sont absolument vrais. Il expliquait que des enfants actuellement au collège, qui ont 12, 13, 14 ans, sont incapables de courir comme ceux qui l'étaient il y a 30 ans. Ils sont essoufflés, ils sont gros, ils ont voilà. Et on a aussi des jeunes adultes qui ont des pathologies cardiovasculaires qui sont celles que l'on retrouvait il y a 40 ans chez des personnes au-delà de 50 ans. Tout ceci par le fait de la sédentarité. Et mieux que ça, un exemple qui nous a touché et qui est vrai, il expliquait que les sportifs de haut niveau, pour nous expliquer la différence entre sport et activité et sédentarité, actuellement sont plus gras que ceux des années 70. Mmh. Et parce qu'en dehors du sport, et voilà, ils sont comme tout le monde, ils sont installés avec leur casque dans les oreilles, ils scrollent comme tout le monde. Et qu'ils avaient une couche de graisse qui était différente. Et que l'activité n'a rien à voir avec le sport. Quoique l'un englobe l'autre. Donc c'est extrêmement important, le fait de marcher, de prendre l'escalier, de ne pas prendre l'ascenseur, de s'activer.
Bon, aujourd'hui, donc, là aussi, les métiers ont changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus forgeron, on est community manager.
Oui, mais il faut compenser.
Non, mais tu vois ce que
bien
je veux
sûr.
Dire. Il y avait
bien
des
sûr.
Métiers qui étaient physiques. Moi, mes parents étaient étalagistes, ils faisaient les vitrines des magasins. Ma mère, elle a toujours été mince comme pas possible. Elle était en activité toute la journée. Elle montait les mannequins, les machins, les trucs. Aujourd'hui, les gens sont derrière leur écran.
Complètement, c'est extrêmement sain, ce type d'activité. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc on est sur des choses de cette nature.
Un troisième ou pas?
Le troisième, je le montre dans le rapport, c'est la technoférence pour laquelle se pose la question, la technoférence, c'est le fait d'avoir des ondes qui vont interférer, notamment lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est jeune, donc entre 0 et 6 ans, là, on a des éléments extrêmement importants sur les risques, par exemple, de porter un device lorsqu'on est dans une maternité, par les parents, tout ça.
Est-ce que tu penses que dans 20 ans, on va regarder les films où les gens étaient au téléphone dans une maternité comme on regarde il y a 20 ans, tu sais, le gynécologue qui fume?
Oui.
On va regarder ça comme ça.
Ben, je l'espère, du moins.
Et on va nous dire, on était des grands malades.
Oui, absolument, je l'espère.
Tu te rends compte? On était au téléphone dans le métro.
Bien sûr. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on est... il y a des éléments de consensus absolu. Des questionnements se posent sur l'imputabilité. Il y a deux éléments. Sur l'imputabilité des maladies psychiatriques et les TSA, les troubles du spectre autistique. Donc là, on parlera. Et puis, un autre élément, c'est les perturbateurs endocriniens. La littérature est contradictoire. Mais on est vigilant, on continue à...
Fertilité aussi, les hommes qui ont le téléphone dans la poche.
Cela dit, là on a un peu séché, c'est parce qu'on était sec, parce que oui, c'est le cas. On est sur des données avec très peu d'effectifs.
Très peu de recul.
Une méthodologie qui n'est pas très bonne, et il n'y a pas beaucoup de moyens qui ont été alloués directement à ça. Et donc, dans une des recommandations au président de la République,
vous demandez des moyens
pour la recherche.
Bien sûr. Est-ce que le président et puis toute son équipe, le gouvernement, a été surpris, vous pensez réellement, par ce rapport
ou est-ce que quelque part... Surpris par les résultats, non, tout le monde savait qu'on avait un phénomène qui s'est imposé à nous. Ouais. En revanche, l'importance des effets chiffrés et mesurés ont été surprenants. Puis je ne parle pas, par exemple, du caractère polluant du numérique. Le numérique, c'est la pollution complète. Pour fabriquer un device, un ordinateur, on a besoin de terres rares. On n'a pas conscience. C'est la guerre du pétrole des années 60, 70.
Mais tout est polluant quand même aujourd'hui. En fait, est-ce qu'il y a un lobbying derrière?
On parle du virtuel, mais c'est pas...
Ouais, c'est pas virtuel. Je veux dire, on sait où sont les data. Non, mais le truc, c'est-à-dire que on sait aussi que le gouvernement, parfois, est un peu pieds et poings liés avec les lobbying des alcooliers, les tabacs. Est-ce qu'il y a ça aussi?
Mais évidemment qu'il y a un lobbying. Voilà. Alors, le lobbying, c'est pas un lobbying en France. C'est un lobbying dans le monde. Et nous, on a une dimension européenne. Lorsque le président nous a rencontrés, il nous a dit, je vous invite à faire un rapport qui aura pour mission, évidemment, d'informer les Français et m'informer, et surtout de pouvoir être un élément qui me permette d'influencer au niveau international, notamment en Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que la France a fait des choses. La France, avec son commissaire Thierry Breton, qui n'est plus là d'ailleurs, a été à l'origine de deux textes extrêmement importants, le DSA, le Digital System Act, je crois, et le DMA, Digital Market Act, qui permet de réguler ces grandes plateformes monstrueuses que tout le monde connaît, Meta, Snapchat, Apple, Google, les GAFAM, tout ça. Et donc, ça a été un travail de longue haleine qui a accouché d'une certaine manière ces deux textes. Et la France était derrière cela. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles la France a pu avancer. Mais elle avance avec les autres.
Bah oui, évidemment.
Et le rapport, quand il est sorti, a été très, très bien accueilli sur le plan international.
Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais on est d'accord que le rapport, il a été fait... on t'a demandé un rapport sur les enfants et les écrans, d'accord. Ce n'est pas que les écrans.
Non.
Et nous,
alors,
ce qu'on veut, c'est aider les...
Voilà. Très bonne question. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à travailler sur les enfants et les ados, les parents n'étaient pas loin, les adultes aussi. Forcément, il y avait un effet vicariant, comme on dit, c'est-à-dire de modèle sur lequel il fallait travailler. Je parlais de la technoférence, c'est les adultes qui prennent le téléphone, ça c'est important. On avait aussi tous les adultes au niveau de l'éducation nationale, c'est le gros morceau. Qu'allons-nous faire du numérique dans l'éducation nationale? Alors on ne l'a pas dit, mais je pense que tu partages mon point de vue, Karen. Ces écrans, ce numérique a changé la vie. Non, a changé notre vie. C'est d'abord et avant tout une extraordinaire avancée technologique qui a réduit les inégalités territoriales, sociales, économiques. Si on n'avait pas le numérique pendant le Covid, nos enfants seraient maintenant en rupture totale.
Ils seraient encore en CM2, hein, mon fils.
Si on avait complètement...
Je crois qu'il n'est pas loin.
Imagine-toi le nombre de consultations que Amine Benyamina et ses collègues ont fait pendant la période du Covid. On était en télétravail.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, oui, il y a des avancées fantastiques.
Oui, mais forcément. En même temps, on a pris des habitudes pendant ce Covid à cause du numérique qui ne sont peut-être pas les bonnes non plus.
Bien sûr, mais il faut être critique vis-à-vis de ça.
Mais heureusement qu'il y a le téléphone qui nous demande de faire 10 000 pas.
En plus. Cela dit, Il faut relativiser.
Moi, mon téléphone, ce matin, il m'a dit, vous avez fait moins de pas ce matin que la semaine dernière, j'ai eu envie de l'envoyer contre un mur.
Ben, forcément, parce qu'il, c'est ta conscience.
Est-ce que ça, tu parles de ça aussi? Tu parles de toutes ces applications qui sont censées, rendre la technologie bonne pour l'homme, et notamment le contrôle parental, qui finalement est un outil marketing.
Ah, ben, clairement. Le contrôle parental, c'est le contre-exemple à mettre en avant. C'est le fait de dire que nous avons mis en place un outil avec toutes les fonctionnalités, les facilités. En vérité, un outil qui vous réengage et qui vous flique et qui a défini votre personne dans mon espace. Et à côté de ça, puisque vous êtes mineur, vos parents vont devoir se débrouiller avec ça. Et nous, on s'en lave les mains.
Exactement.
C'est ce qu'on a dénoncé, hein, lorsqu'on a reçu tous les Meta, les Snapchat, les Apple, tout ça. On les a tous auditionnés. Pour la petite histoire, on a auditionné à peu près 120 experts et 150 jeunes. Donc tout ça, on le sait.
Jeunes, tu parles de entre
quel âge ? On a fait un hackathon. Je crois qu'ils étaient entre 13 et 17 ans. On les a entendus.
Alors déjà, j'ai entendu que tu disais déjà avant 3 ans, inutilité totale et danger de mettre un enfant devant un écran.
Même 6 ans, ensuite. Même
ils ont besoin d'interagir, voilà. Et là, il n'y a aucune interaction.
Oui, parce qu'on a, par exemple, puisque on parlait, j'essaie de vous faire vivre un peu ce qui a été notre quotidien pendant 3 mois.
Bah oui.
On a reçu des orthophonistes qui avaient en face d'eux des enfants avec des parents de très bonne foi qui leur donnaient des tablettes, tout ça, parce que, évidemment, cet outil qui est sur la table là, c'est celui qui permet de s'ouvrir au monde et donc de rendre mon enfant plus intelligent.
En anglais, des choses en français, il sera bilingue.
Le problème, c'est que lorsqu'on les met très tôt et de manière systématique avec ces produits, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la réalité. Ils ont un langage qui est très pauvre, et des interactions quasi impossibles, inexistantes. Et c'est pour ça que ça a eu une confusion qui a été faite pendant longtemps. On a parfois carrément des tableaux de type autistique, qui n'en sont pas évidemment, parce qu'il y a un retard d'acquisition du langage et de l'interaction qui est rattrapé évidemment par un travail d'orthophoniste. Hein. Mais pas que, de psycho et
on a des enfants qui pensent qu'ils peuvent tout agrandir en écartant leurs deux
en
doigts.
En plus. C'est terrible, mais c'est vrai.
Ce serait tellement magique si on pouvait faire ça.
Ben oui, je le fais aussi.
Donc c'est les enfants les plus vulnérables, évidemment. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé ce rapport, et c'est aussi parce que c'est notre génération future et qu'on veut avancer là-dessus. Quels sont les signes qui peuvent indiquer, évidemment, pour les parents? Maintenant, le but, c'est quoi? C'est d'alerter. Moi, je préfère qu'on parle. J'ai plein de questions, ai beaucoup trop, mais je préfère que toi, tu parles de dont tu as envie de parler, c'est-à-dire de ton rapport.
C'est simple, on a fait 29 propositions, elles tournent autour de plusieurs axes.
Ça.
Il y a 6 axes à peu près, je ne vais pas les citer parce que c'est rébarbatif, mais globalement, l'esprit, c'est de d'abord expliquer que l'outil est là, il faut le réguler et il faut faire un bon usage de l'outil parce qu'on ne peut pas...
L'interdire.
Ça n'a pas beaucoup de sens, l'interdire. L'interdiction, c'est la stimulation de la curiosité. C'est un peu le principe. Alors, donc, on ne sait pas. Et puis, l'interdire, comment vivre sans? Mais on peut vraiment le contourner. On a donné des bandages.
Ah bon?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait alors?
D'abord sur les bornes d'âge, ne pas utiliser les produits avant 6 ans, ça n'a pas de sens.
Les bornes d'âge, d'accord.
Les bornes d'âge. Ensuite, entre 6 ans, on a dit qu'il fallait un pavé qui ne sert à rien d'autre que les parents, un peu comme le bebop à une époque, les parents savent où on est. Ensuite, jusqu'à 15 ans, vous savez que 15 ans, c'est ce qu'on appelle la majorité numérique, on peut passer des coups de fil. Entre 15 et 18 ans, on dit les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux éthiques. En gros, il y en a quelques-uns, je ne vais pas leur faire la pub, ça existe. Globalement, l'esprit avec lequel on a écrit, c'est éviter tout ça avant 18 ans. Et pourquoi? Parce que il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux, il faut apprendre à utiliser cet outil. Lorsqu'on a 18 ans et que les parents nous achètent une voiture, parce que c'est comme ça, ça peut arriver, on passe le permis. Il n'y a pas de permis d'utiliser Internet ou d'utiliser ces objets. Puis c'est la jungle, il y a tout à l'intérieur. On a entendu des témoignages de la police, de la justice, des avocats qui nous expliquaient ce sur quoi ils sont tombés. Des enfants qui étaient captifs de manipulation alors que les parents n'étaient pas au courant, des idées dépressives, des idées suicidaires.
Bon, le harcèlement aussi.
Le harcèlement.
Sur les réseaux.
Voilà, donc là on est sur des choses de cette nature. Donc là-dessus, il faut faire attention. Et en même temps, on n'avait pas trop le choix que de passer par cette période. C'est une révolution technologique qui est arrivée il y a 20 ans. C'est rien, 20 ans. C'est rien.
C'est comme la révolution industrielle au moment où c'est arrivé.
Ans, absolument.
Ce qu'on voyait de Charlie Chaplin, on a bien compris.
Complètement. Ouais. On est maintenant sur la critique, et ce n'est pas le rejet.
C'est normal.
La critique normale avec l'arrivée finalement d'un truc.
Bien sûr. Il faut faire avec la réalité en fait.
Qui nous a totalement pris de court.
Oui, parce que critiquer, moi, je pense que ça sert à rien. C'est évidemment qu'on pourrait tout critiquer parce que le monde entier, voilà, cette révolution industrielle, elle est en cours depuis un bon moment et elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc critiquer, je pense que c'est contre-productif. Et le mieux, c'est justement de commencer à regarder où sont les... Mais après, il y a aussi cette hypocrisie de se dire, on sait que c'est dangereux, c'est comme la cigarette. Pourquoi est-ce que c'est autorisé, quoi? Pourquoi est-ce que c'est légal, tu vois? On a cette question-là tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est légal quand t'achètes un téléphone de le mettre dans la main de ton enfant à 9 ans? Est-ce que t'aurais le droit? Est-ce qu'un enfant qui va à l'école avec un téléphone, les parents devraient avoir une amende, par exemple?
Bien sûr. Ouais. Bah, pourquoi pas?
Ouais.
Tout est possible. Ensuite, c'est le législateur qui va intervenir. C'est évidemment. Alors, en gros, on fait le constat, on l'a vu, c'est la présence, l'importance. Ensuite, c'est l'éducation, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, la limitation de la présence de ces objets à la fois dans la vie familiale et scolaire aussi. Donc on a demandé, d'ailleurs ça a commencé, à limiter dans l'éducation nationale la présence des devices. L'utilisation aussi du numérique de manière systématique par l'encadrement pédagogique, les pronotes et compagnie.
Alors
faut arrêter des pronotes à minuit, 22h, tout ça.
Oui, on dirait le sketch de Gad Elmaleh, voilà, alerte poésie.
Il faut limiter les choses comme ça. Donc évidemment, ça ne plaît pas toujours à l'éducation, mais on a une écoute de la part de la ministre à l'époque quand on a remis le rapport. C'était Nicole Belloubet qui nous avait reçu avant la remise. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles il y a quand même un consensus. On travaille beaucoup avec les cabinets ministériels là, depuis peu. Après les Jeux Olympiques et la dissolution, on a repris contact. Il y a ça. Apprendre à utiliser le produit.
Le produit.
Ouais, c'est le cas. Apprendre aux adultes à comprendre les technologies nouvelles, parce que les enfants sont parfois bien meilleurs, même souvent bien meilleurs que les parents.
Ah oui, ça, c'est ça le problème.
Voilà. Donc il faut.
C'est qu'on peut pas trop éduquer les parents aujourd'hui, c'est trop tard.
Augmenter en compétences quand on est adulte, hein. Ça, c'est des choses importantes. Et ensuite, on a eu tout un volet sur la régulation, on y est, des grands groupes, les multinationales.
Oui, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour mieux protéger les mineurs contre les contenus nocifs? Quelle est la responsabilité des plateformes dans le développement de cette addiction? Et surtout, comment est-ce qu'elles peuvent être responsabilisées?
Elles sont responsabilisées. Depuis la sortie du rapport, on a vu quand même des initiatives qui vont dans le bon sens. Parce qu'ils sentent le vent tourner. Ça, c'est vrai. Évidemment, ils ont la maîtrise de la technologie pour pouvoir faire que leur outil ne devienne pas un outil addictif. Le scrolling, par exemple, le fait de le réengagement, ça pose problème. Le contenu des algorithmes qui nous définissent, on n'a jamais réussi à évidemment rentrer dans le cœur de la recette. Ben, personne n'en parlera. C'est le but même, l'essence même de leur modèle économique. Hein. C'est à en avoir beaucoup. Il y en a un qui cache pas ses intentions, c'est l'application TikTok, qui très clairement rémunérait le temps passé dans son application. TikTok Lite, ça a été évidemment bloqué. C'est tout ça qui pose problème.
Wow.
Ouais, c'est tout ça. Et ensuite, tout un travail sur comment nous, dans l'espace dans lequel on vit en France, en gros, on allait traduire tout cela. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a demandé aussi un peu de moyens pour observer les choses de manière scientifique. Puis, on a demandé, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour que ça ne se pèse pas sur les contribuables, qu'il y ait une forme de grande...
Observatoire.
Une caisse dans laquelle les pollueurs sont les payeurs, pardon. Un peu de la même manière qu'on a fait pour le tabac, que les grands groupes mettent de l'argent et que cet argent soit distribué auprès des associations, auprès des scientifiques. Parce que pour l'instant, il y a un gros problème
de conflit d'intérêt. Mais c'est prendre de l'argent à ceux qui font ça.
Il y a
ça,
un problème de conflit d'intérêt parce que les associations n'ont pas d'argent, sont financées parfois par ces grands groupes et qui les rendent un peu loyaux malgré eux vis-à-vis de ce type
merveilleux.
De...
Merveilleux.
Voilà. Donc on a proposé ça, un certain nombre de choses. Et je rappelle, que si vous voulez consulter la totalité et l'intégralité du rapport, il est sur le site de l'Élysée.
Oui, puis nous, on va mettre évidemment le lien.
Complètement.
Évidemment. Ça m'a passionné. Franchement, au début, je me suis dit, putain, 140 pages. Et en fait, ça se lit.
On les avale vite.
On les avale. Voilà. Et voilà, pareil, c'est un peu addictif.
Il y a tout. On a tout mis.
Mais en parlant même de...
Évidemment, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. On est critiqué comme ça, ce qui est normal.
Ah bah non, mais
c'est perfectible. Mais bon, en 3 mois, on a réussi. Et peut-être on a essayé, mais je crois que réussi à donner une... D'autres viendront, probablement.
Et puis, c'était formé de quoi, cette commission, déjà?
Alors, c'était 10 personnes d'horizons différents.
Voilà.
Il y avait Servan Mouton et moi-même qui présidions, mais Servan étant un neurologue en libéral dans la région lyonnaise, moi qui suis universitaire à Paris. Ensuite, on avait Grégoire Borst et Jonathan Bernard, qui étaient deux chercheurs.
J'ai reçu Grégoire.
Ouais, je sais. Donc, deux chercheurs. On a eu Axel Dessin, qui était à la tête d'une association, c'est Internet sans crainte.
Parce que Grégoire, il avait l'air de dire, pour l'instant, non, hein, on n'a pas de problème avec les écrans. Il a dit ça longtemps.
Non, mais
hein.
C'est vrai que longtemps, et Grégoire, il dit, ce que je peux entendre, hein, qu'il n'y a pas assez de... Alors, il y a la couverture, et ce qui est vrai, n'est pas démocratique, il n'y en a pas partout. Voilà. Donc, Grégoire avance avec...
Avec vous.
Avec nous, ouais. Bien sûr. Il avance avec la littérature. Voilà. Mais il n'est pas contre, évidemment, l'ensemble des recommandations.
Non, mais c'est super d'avoir
c'est
des gens qui étaient
complètement
différents.
Tout à fait. Grégory Verret, qui est à la tête d'une association aussi de protection sur le... Zulu, qui est pour protection sur le site internet. Célia Zolinski, qui est juriste internationale, avec laquelle on a beaucoup avancé. On a eu Carole Bouquet et Alexandre Pascal. Bousquet, pardon, Carole Bousquet.
Alors là, je dis quel est le rapport.
Carole Bousquet.
Mais je l'adore.
Bérard. Carole Bousquet-Bérard, qui était l'ancienne directrice du cabinet du ministre François Braun, qui était notre rapporteur avec Alexandre Pascal.
Que j'ai reçu aussi.
Qui est IGAS. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, on a fait le tour de tout. Tout le monde y était. Ouais, je crois que tout le monde, voilà.
Ouais, c'est super. Franchement, je trouve que c'est assez large et assez hétéroclite comme horizon pour pouvoir avoir vraiment les bonnes données.
Bien sûr.
Donc, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? En fait, finalement, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Toi, tu connais très bien l'addiction. Tu connais l'addiction à un produit. Bien on sûr. Sait qu'on peut pas enlever un produit quelque part sans le remplacer.
Oui. Alors, on l'a dit aussi dans le rapport, les alternatives sont toujours les mêmes. Puisqu'on a un problème de sédentarité, c'est développer les activités sportives, pas forcément pas faire de tout le monde et de tous les enfants des sportifs de haut niveau, mettre à disposition des installations dans la cité, restimuler la lecture de manière intelligente et pas prendre un bouquin, fais-moi un compte-rendu, des choses de cette nature. La culture aussi, restimuler la culture, promouvoir le rapport humain, physique.
Mais comment
il faut. Nous, on a.
Ça part d'où? Ça part de l'éducation nationale déjà.
Mais pas que. Et ça part aussi des initiatives associatives, parentales aussi, mais pas que.
Bah, j'ai de la chance d'avoir un enfant. Moi, je parle beaucoup de moi dans ce podcast, tout le monde le sait. Un enfant très sportif et qui passe à peu près 20 heures par jour.
Tu es sportif, Karen, et tu as renvoyé aussi cette image, non?
Moi, je suis beaucoup derrière mon ordi parce que j'écris, mais par contre, je suis pas du tout sur les contenus. J'ai enlevé les applications, moi, Facebook, Instagram, depuis très longtemps. Non, je parle beaucoup sur WhatsApp, ça c'est un souci. Et puis j'ai arrêté aussi de faire les photos de tout ce que je fais. Ça c'est aussi un souci.
D'accord.
Non, mais mon fils, quand il est sur son téléphone, c'est plus la même personne. Mais en revanche, il passe 30 heures par semaine au terrain de basket. Donc quelque part, moi je m'inquiète pas.
Bien sûr.
Je m'inquiète pour l'école en revanche.
Oui, il faut que c'est l'équilibre qui compte. Ouais. Il faut être vigilant, il faut équilibrer, il faut doser finalement tout ça. Et puis derrière tout ça, il faut s'enquérir de la santé mentale de nos enfants.
Donc c'est vrai que je suis sportive, pardon. Je trouve que c'est malhonnête de dire non, parce que je fais du yoga tous les matins et que je marche au moins 2 heures par jour.
Ça, c'est extrêmement important.
Et je marche en plus en forêt.
C'est génial.
C'est pour ça que je suis partie habiter si loin.
C'est bien.
Donc, on va devoir mettre des alternatives aux écrans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu envoies, toi, dans les services d'addictologie, des gens qui viennent pour addiction aux écrans? Et est-ce que c'est possible de désintoxiquer des écrans? Et quelles sont les méthodes les plus efficaces?
Bon, évidemment, ils viennent parce qu'ils sont derrière les contenus.
Jeux vidéo aussi?
Ouais, jeux vidéo, c'est énorme.
On a reçu aussi Bruno Rocher.
Voilà, donc de Nantes, oui, absolument. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Souvent, on a des comorbidités associées, troubles anxieux, troubles dépressifs. Là, il faut être aller dans le repérage de ces troubles. Et puis, on travaille comme on le fait avec les substances. C'est-à-dire, on fait le bilan des dommages, on voit s'il y a une comorbidité associée, on voit l'âge, on photographie la constellation familiale et la dynamique autour. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on agit soit on désensibilise, soit on diminue, soit on fait des choses. Ensuite, on traite la comorbidité. Et puis, on est dans un écouille. On a une photographie fonctionnelle de la personne, ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, qu'on fait dans les thérapies cognitives et comportementales, et on avance. On donne un cadre, on baisse, on entend, on écoute, et on avance.
Il y a des cures aussi de
désintoxication? Ah oui, j'ai eu l'occasion, moi, dans mon service, d'hospitaliser des gens qui étaient des grands joueurs pathologiques.
Ah oui, pour le jeu d'argent aussi.
Le jeu derrière l'écran, c'est ça.
Parce qu'il y a l'argent aussi.
Il y a l'argent. Le grand drame de la dérégulation des jeux en ligne. Et puis là, récemment, j'ai entendu parler d'un grand débat sur lequel on s'est positionné. C'est le casino en ligne. C'était catastrophique.
Ça, c'est une honte.
C'est une honte. totale.
Une honte. Parce que le joueur qui se fait interdire et qui peut jouer.
Évidemment. Alors évidemment, ils disent qu'on va mettre des garde-fous. C'est faux.
C'est comme de mettre j'ai plus de 18 ans aussi.
L'État pense pouvoir avoir engrangé un peu d'argent, mais en face, c'est un gouffre d'argent qui va arriver pour les prises en charge et pour les dommages occasionnés par ces casinos en ligne. L'exemple d'une aberration, la fausse bonne idée, quoi.
Et on a aussi les achats compulsifs en ligne, hein, des gens qui passent des heures à chercher des produits dont ils n'ont pas besoin.
Complètement. Ce qu'on appelle la fièvre acheteuse.
Oui, mais c'est-à-dire que les plateformes Amazon, je ne veux pas faire de la pub, mais c'est vraiment, je me vois moi-même faire, c'est-à-dire que je vais pour acheter un truc, déjà c'est pas génial, hein, tu peux aller en magasin ou en librairie, tu achètes déjà quelque chose en ligne, bon, et en plus, tu te retrouves à acheter plein d'autres choses que tu n'avais vraiment, dont tu n'avais pas eu l'idée.
De plus en plus, les magasins physiques vous renvoient en ligne. Par exemple, vous allez, un produit qui vous plaît, vous n'avez pas la couleur ni la taille,
c'est en ligne.
Systématiquement, ils disent achetez en ligne. Et donc, quand vous vous connectez, c'est pas un magasin que vous avez, c'est tous les magasins sous le nez. Et vous achetez toujours plus que vous ne pouvez imaginer. En général, c'est un peu moins cher parce qu'il n'y a pas toute la logistique à régler.
Et un dernier sujet qui n'est pas de l'addiction, mais qui parle de liberté aussi, les données collectées depuis la naissance d'un enfant.
C'est un problème. C'est un vrai problème. Il y a le RGPD qui est là, mais qui n'est pas suffisant. On est absolument d'accord. On a soulevé avec cette commission vraiment des problématiques de type légal. Puis on était coincé par la puissance de ces plateformes. Un problème, par exemple, pour pouvoir imputer les problématiques addictives et puis les dommages liés à l'utilisation des écrans, il y a un tout simple, c'est la définition de l'addiction à l'écran.
Ouais, exactement.
Elle n'existe pas. Il y a un vrai travail scientifique, pédagogique et même de lobbying scientifique pour pouvoir l'inscrire dans les critères internationaux comme dans le DSM ou la CIM.
Oui, comme c'est arrivé pour l'anorexie ou pour
c'est pas le cas pour l'instant.
Des écrans.
Ouais. Des écrans, l'écran général.
L'écran général. Et j'ai l'impression aussi, pour moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, finalement, au-delà de la santé, parce que la santé, bon, moi, j'ai pris des risques dans ma vie incommensurables, donc je me dis, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de prévenant, mais c'est plus la trouille que j'ai, moi, c'est d'aller mal et d'être dépressive et d'avoir envie de mourir. Donc, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie.
Bien sûr.
Et à cause de l'addiction, je me dis, est-ce qu'on va vers une génération d'enfants qui pourraient être dépressifs à cause de ça? Est-ce qu'on peut le sentir?
Oui, on peut le sentir. Alors, rapidement, un peu de pédagogie. L'addiction est une maladie autonome, indépendante, et les maladies psychiatriques également. Les comorbidités sont fréquentes. C'est plus la règle que l'exception. Alors, les liens entre les deux sont très, très difficiles à établir. C'est le principe du l'œuf et de la poule. Que ce soit clair. Et on ne consomme pas toujours pour pouvoir gérer sa problématique psychiatrique ou bien psychologique. OK? Mais il est vrai que lorsque les deux sont présentes, ils s'alimentent mutuellement.
Exactement.
Et une des grandes stratégies de prise en charge, c'est de rentrer par n'importe quelle porte pour pouvoir gérer les deux.
Waouh.
Donc c'est extrêmement important, c'est casser un peu le lien.
En tout cas, d'arrêter de consommer quand on va très mal,
c'est déjà bien.
Moi, je me suis rendu compte que je pensais être dépressive et que je consommais. Quand j'ai arrêté de consommer, je me suis rendu compte que j'étais pas dépressive.
Ah ben clairement, parce que la consommation est dépressogène.
Voilà. C'est addictogène et dépressogène.
Moi, je dis une phrase toute simple, Kéréane, à mes patients, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas bien, vous avez recours au psychotrope le plus facile, qui est le plus légal, c'est l'alcool. Par exemple, si je prends l'exemple de l'alcool, je leur dis, voyez, vous allez avoir deux choses à gérer maintenant, votre dépression et votre alcool. Donc, laissez-nous gérer une seule, on vous aidera pour le reste. Voyez.
Eh bien, écoute, c'est ça, on va te laisser aider pour le reste. Non, mais c'est important de savoir aussi qu'on peut être accueilli pour cette addiction.
Complètement, il y a beaucoup de grandes structures qui savent prendre en charge les problématiques liées au contenu des écrans.
Et ce qui est chouette aussi, c'est de déculpabiliser les consommateurs, un petit peu comme on a reçu Martin Drago, qui est de l'action Alliance contre le tabac, qui condamne l'industrie plus que le fumeur. Je pense qu'il y a aussi, on culpabilise énormément les gens en leur donnant le nombre d'heures de Et en fait, je pense que votre commission et le rapport ont permis enfin de voir aussi que les coupables sont ceux qui sont derrière les écrans.
On est d'accord. Et d'ailleurs, j'entends une petite musique là depuis peu portée par des membres du gouvernement qui souhaitent s'attaquer aux consommateurs. Je pense qu'on fait fausse route.
C'est fausse route. Bah bravo.
Une énorme fausse route. Clairement, moi, je suis pas quelqu'un de qui est irresponsable.
Mais tu n'es pas répressif.
Je ne suis pas dans la répression, je suis dans la compréhension. Et s'il faut réprimer, ce sont évidemment les trafiquants, les grands. Et puis les consommateurs, partant du principe qu'au bout d'un joint, il y a la mort, je ne suis pas d'accord là avec ça. Il faut comprendre et il faut adapter la loi pour pouvoir vraiment taper là où il faut.
Bien sûr, et aller chercher les nouveaux dealers.
Complètement.
Hein?
Et qui sont rarement au coin de la rue, qui sont derrière les écrans.
D'ailleurs, ces gens-là ont interdit à leurs enfants
d'y aller,
d'utiliser les écrans. Eh bien, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup,
merci Amine.
Je t'en prie, merci beaucoup.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lesite.fr et idfm98.fr.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
FM 98 FM.
Je viens comme je suis.
très fort sans artifice. J'ai rien enfoui, tu devines. Quand je suis bien ou bien triste, je sais pas faire l'actrice. Je suis un livre ouvert. J'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite. Pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête. Parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, si c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande cette salle, elle est si petite cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Quand tu pourras, mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas, on se racontera nos soirées. Tu me parleras de ton mec, je veux tous les détails de l'histoire. Enfin, si t'es toujours avec, quand on arrivera à se revoir. Dis-moi si tu me trouves un peu bizarre. Si t'arrives plus. Changer, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire, même si tout a changé. Rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire, même si tout a changé.
vos artistes préférés sont sur IDFM Radio.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Let me give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire. C'est pas le pire quand la pause arrive. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups dehors. Il faudra que je cours. Je veux que l'on m'écoute, plus de doutes pour m'en sortir. Je dois tenir et construire mon futur. Partir
partir à la conquête d'une fille moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours.
Respirer dans ce monde parmi vous.
Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Mais je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Il faudra que je coule.
Juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface.
IDFM Radio 98 FM.
We were toxic, we were cursed. Every time we tried, never worked. I was bad, but you were worse. Gotta win this game of who broke who first. Cause when you show up, did you think you're worth? Was just kissing down with no consequences. You fuck me up and I'm done with ya. Till I feel your kiss again. Yeah, we can go all night, till the sunlight, sunlight. And if you just take my heart, we can go on and on till morning. On the floor, I'm sick in the head, cause I still want more. Cause when you show up, did you think you're worth? Was just kissing down with no consequences. You fuck me up and I'm done with ya. Till I feel your kiss again. Now we can go all night till the sunlight, sunlight. And if you just take my heart, we can go on and on till morning.
Oh, IDFM Radio, 98 FM.
Il faut du cardio, le sang chaud, le battement de décision à chaud. Wano, y'en a sous le capot, j'ai l'anneau. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Je verrouille la cible, t'étais sur la liste. Encore un son qui fait danser les racistes. Ce soir je suis libre, v'là l'antagoniste dans le Ferrari pista. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Appelle ta copine, dis-lui que c'est pour chill. Beauté assassine, je vais gratter la bise. J'ai mis ton dossier tout en haut de la pile. Je barre dans la ville, beauté assassine. Ne fais pas de pile, on va faire un deal. Montre-moi ce que t'es prête à faire pour la team. Ta beauté fascine, avec ou sans fossile. Là je m'impatiente, dis-moi c'est quand qu'on signe. Un, deux, je crois qu'on a touché la cible. En plein dans le mille. Boum, tchap, 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 tchap.